Bonjour à chacun. Il y a 15 jours, Daniel Salas, dans sa prédication, a évoqué en passant, sans développer le sujet, la question du péché contre le Saint-Esprit. C'est un sujet notoirement difficile, que l'on n'aborde pas souvent, que l'on évite même peut-être. Et je me suis dit en entendant Daniel qu'il serait sans doute utile de l'aborder une fois, ce n'est pas la première, mais de l'aborder en tout cas un de ces prochains dimanches. Et c'est ce que je vous propose de faire ce matin. Qu'est-ce que le péché ou le blasphème contre le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il n'est pas? Qui est concerné et qui ne l'est pas? J'ai choisi comme point de départ à notre réflexion un des récits des évangiles qui en parlent, et j'ai pris celui de l'évangile de Marc, et j'aimerais donc en faire la lecture. Marc chapitre 2, je commence au verset 20. Puis il, c'est-à-dire Jésus, revient à la maison. Et la foule se rassemble encore. Il ne pouvait pas même manger. À cette nouvelle, les gens de sa parenté sortirent pour se saisir de lui, car ils disaient : il a perdu la raison. Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient : il a Belzéboul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Il les appela et se mit à leur dire en parabole : comment Satan peut-il chasser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut tenir. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut tenir. Si donc le Satan se dresse contre lui-même, il est divisé, il ne peut tenir, c'en est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord lié cet homme fort. Alors seulement, il pillera la maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux fils des hommes, péché et blasphème autant qu'ils en auront proféré. Mais quiconque blasphème contre l'Esprit Saint n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. C'est qu'il disait : il a un esprit impur. Sa mère et ses frères arrivent. Se tenant dehors, ils le firent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit : ta mère et tes frères et tes sœurs sont dehors et ils te cherchent. Il répond : ma mère et mes frères, qui est-ce ? Puis promenant ses regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, il dit : voici ma mère et mes frères. En effet, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Nous arrêtons là pour la lecture de la parole de Dieu. Je vous propose deux étapes pour aborder notre sujet, deux parties au message de ce matin. Une première partie où nous allons tout d'abord considérer le texte que nous venons de lire, et puis une deuxième partie où nous aborderons clairement cette question, où nous réfléchirons à cette question du péché, du blasphème contre le Saint-Esprit. Que se passe-t-il dans notre texte? Notons tout d'abord que notre récit est pris comme un sandwich, encadré par la question de la vraie famille de Jésus. La question de la vraie famille de Jésus. L'épisode qui aborde cette question de la vraie famille de Jésus est introduit au verset 21. Comme vous pouvez le voir, j'ai souligné le verset, en tout cas la partie du verset qui introduit cette question. Et puis ensuite, il y a une parenthèse qui est le texte que nous allons méditer sur le blasphème contre le Saint-Esprit. Et puis à partir du verset 31, nous revenons à cette question de la vraie famille de Jésus. À plusieurs reprises dans son évangile, Marc va utiliser cette technique qu'on appelle du sandwich, enfin, que certains appellent ainsi, où il encadre, hein, où il fait une parenthèse avec un autre texte au milieu d'un sujet. Et il le fait quand il veut associer deux récits qui, apparemment, n'ont pas de lien entre eux. Quel est ou quels sont les éléments qui convergent entre ces deux récits ? Je ne vais pas en faire le catalogue, mais simplement souligner celui qui, à mes yeux, est le plus évident et qu'on peut formuler ainsi. Ceux qui devraient le mieux voir Jésus, ceux qui devraient le mieux comprendre qui il est, c'est-à-dire sa famille, c'est-à-dire les autorités religieuses de l'époque, ne voient pas, ne comprennent pas qui est Jésus, refusent même de voir qui il est. Que se passe-t-il dans notre récit ? Nous lisons au verset 20 que Jésus est de retour à la maison. Un petit peu plus tôt dans le chapitre, au verset 7, nous lisons qu'il est allé vers la mer, puis au verset 13 qu'il est allé vers la montagne, et le voilà de retour à la maison. Laquelle ? Sans doute la même que celle qui est mentionnée au début du chapitre 2, c'est-à-dire à Capharnaüm, chez Simon et André. Jésus est donc de retour et la foule se rassemble à nouveau. Une foule que Jésus accueille, même si ce n'est pas de tout repos pour lui, et même s'il y a des risques. Si vous regardez au verset 10, si vous avez vos Bibles ouvertes, vous verrez, vous pourrez lire ceci, « Tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui, littéralement se jetaient sur Jésus, pour le toucher. » C'est bien que la foule se rassemble, mais ce n'était pas une partie de plaisir forcément pour Jésus. Ici, le danger est plus subtil. Nous lisons au verset 20, « Il ne pouvait pas même manger. » Il est possible de comprendre que c'est la foule, qu'il s'agit de la foule, que c'est elle qui se prive de nourriture. Certains vont dans ce sens, je ne pense pas. C'est vrai qu'il y a d'autres épisodes où c'est le cas, où on voit la foule qui reste là et qui ne mange pas. Cependant, il me semble dans ce texte plus logique de comprendre qu'il s'agit de Jésus et des disciples qui se privent de nourriture. Si des gens de sa parenté viennent se saisir de lui, c'est parce qu'ils pensent qu'il a perdu la raison, au point de se mettre dans une situation où il se prive de nourriture. Je relis les deux premiers versets. Puis il revient à la maison et la foule se rassemble encore. Il ne pouvait pas même manger. À cette nouvelle, il ne pouvait pas même manger. Les gens de sa parenté sortirent pour se saisir de lui car il disait « Il a perdu la raison ». Alors au fil des siècles, les exégètes et les copistes ont été embarrassés par ce verset. Et on a cherché à lisser un petit peu les choses, à arrondir les angles, parce qu'il semblait inconvenable, impensable, que les proches de Jésus, dont Marie fait partie, elle est mentionnée au verset 31, puissent avoir une telle attitude et penser une telle chose de Jésus, à savoir qu'il avait perdu la raison. Ceci dit, le contexte et cette structure en sandwich militent fortement pour qu'il s'agisse bien de la parenté de Jésus, déjà dans le premier verset, c'est clair dans les versets 31 et suivants, mais dans au verset 20, littéralement, il faut lire « ceux de chez lui ». Et certains, alors, pour contourner la difficulté, parlent de ceux de connaissance, mais pas directement de sa famille. Notons ici que c'est un verbe très fort qui est utilisé, qui se traduit par « se saisir » et que Marc va utiliser quand il l'attribue à Jésus, toujours dans le sens de mettre la main dessus, de se saisir de quelqu'un pour l'arrêter, pour l'empêcher de continuer ce qu'il est en train de faire. Il me semble que clairement les intentions de la famille de Jésus à ce moment-là ne sont pas les meilleures. Elles vont changer, puisque nous lisons au début du livre des Actes, que sa famille, les membres de la famille de Jésus sont comptés parmi les disciples. Acte 1, verset 14. On peut, et je termine avec ce petit point, on peut certainement comparer la réaction de la famille de Jésus à celle de Pierre sur la route de Jérusalem quand il dit à Jésus que rien de ce qu'il vient de dire ne lui arrivera. Vous vous souvenez sans doute de cet épisode. Et Pierre, comme la famille de Jésus ici, ont certainement décidé à ce moment-là qu'ils allaient d'une certaine manière sauver Jésus des conséquences de ce qu'il faisait, de ce qu'il disait. Qu'ils allaient d'une certaine manière sauver Jésus de lui-même. Qu'ils allaient sauver Jésus malgré lui. À cette nouvelle, il ne pouvait pas même manger. Les gens de sa parenté sortirent pour se saisir de lui parce qu'ils pensaient qu'il avait perdu la raison. Il peut arriver que ce regard, qui est le regard de la famille de Jésus ici, soit un regard que l'on porte sur nous parce que nous croyons en Jésus, parce que nous suivons le Christ, parce que nous professons appartenir au Christ. Nous l'avons rappelé récemment dans un message, le message de la croix est une folie pour la sagesse humaine. Et ceux qui croient à la croix passent souvent au mieux pour des gens qui ont besoin d'une béquille dans la vie. On connaît tous la citation de l'opium du peuple, n'est-ce pas ? Au pire, pour des illuminés. Et dans cette même ligne, l'apôtre Paul dira aux Corinthiens, « En effet, si nous avons perdu la raison, aux yeux de certains, c'est pour Dieu. Si nous avons perdu la raison, si nous croyons à la croix qui est une folie, c'est pour Dieu. Si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. » Dans l'évangile de Marc, les controverses entre Jésus et en particulier les autorités religieuses sont très présentes. Les scribes sont les principaux acteurs de ces controverses et ils remettent sans cesse en question l'autorité de Jésus. Et dans notre récit, nous sommes en pleine controverse. L'autorité de Jésus est à nouveau remise en question. Et non seulement remise en question, mais le pouvoir, l'origine de son pouvoir, est attribuée au diable. Je dis à nouveau remise en question parce que ça a déjà été plusieurs fois le cas depuis le commencement de l'évangile de Marc. Et nous ne sommes qu'au chapitre 3. On voit clairement, quand on lit l'ensemble de ces premiers chapitres, qu'il y a une intensification dans les controverses. La première controverse est au début du chapitre 2. Elle a lieu autour de la guérison d'un paralytique. Les scribes ne parlent pas à Jésus, mais Jésus connaît leurs pensées et il les interpelle. Il répond aux pensées qu'ils n'ont pas formulées. La controverse suivante suit tout de suite dans le texte. Elle fait suite à l'appel de Lévi. Cette fois-ci, les scribes et les pharisiens parlent, mais pour interpeller les disciples, pas encore Jésus directement. Jésus va répondre à la place des disciples. Et puis toujours au chapitre 2, vient ensuite la controverse au sujet du jeûne. Cette fois-ci, Jésus est directement critiqué par les scribes et les pharisiens au sujet de ses disciples. Ça va être encore le cas dans la controverse suivante, quelques versets plus loin, au sujet des épis arrachés par les disciples. La cinquième controverse, nous la trouvons au début du chapitre 3. Elle est liée à ce récit de la guérison de l'homme à la main paralysée. Et il n'y a pas cette fois-là de dialogue entre Jésus et les pharisiens. Les pharisiens gardent le silence, alors que c'est Jésus qui les interpelle. Ils gardent le silence non pas parce qu'ils n'ont rien à dire, mais parce que la coupe est déjà apparemment pleine pour eux. Nous ne sommes qu'au début du chapitre 3, et déjà nous lisons qu'ils forment des projets pour faire disparaître Jésus. Marc chapitre 3, verset 6, à peine sorti, les pharisiens tenaient conseil avec les Hérodiens contre lui sur le moyen de le faire disparaître. Dans notre texte, nous avons la sixième controverse de l'évangile de Marc. Et deux choses ici marquent un pas de plus dans cette escalade. Tout d'abord, il y a la nature de l'accusation. Ils accusent Jésus, excusé du peu, de faire ce qu'il fait en étant possédé, de faire ce qu'il fait par la puissance du diable. Voilà ce qu'ils disent. Ensuite, il y a les auteurs de l'accusation. Ce ne sont plus les responsables locaux, mais ce sont maintenant les responsables de Jérusalem qui ont fait le déplacement. Une inspection de Jérusalem est devenue nécessaire. Tout ce remue-ménage causé par Jésus est arrivé aux oreilles des autorités de Jérusalem qui ont envoyé une délégation pour voir ce qui se passe et puis pour remettre certainement les choses en ordre. Ce qui est dramatique déjà à ce stade de l'évangile de Marc, c'est qu'à deux reprises déjà, même les démons ont reconnu la véritable identité de Jésus et donc reconnu le véritable pouvoir de Jésus. Chapitre 1, verset 24 et chapitre 3, verset 10. Et pourtant, ceux qui devraient voir, ceux qui devraient comprendre le mieux, ne comprennent pas, ne voient pas, et nous pouvons même aller plus loin, ne veulent pas voir. Alors même qu'ils ont tous les éléments en main, toutes les cartes en main pour comprendre. Leur analyse, leur diagnostic est pourtant sans appel. Jésus a Belzéboul, disent-ils. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus est possédé. Il agit par la puissance du diable. Un mot sur ce nom Belzéboul. Vous avez très certainement, si vous avez vos Bibles, une autre orthographe parce qu'il y en a de toutes sortes. Ce n'est pas très important. Cette orthographe varie d'ailleurs dans les différents manuscrits que nous avons du Nouveau Testament, et ce qui fait que nous avons différents rapprochements qui sont possibles pour essayer étymologiquement de comprendre d'où vient ce mot. Les deux options les plus sérieuses rapprochent ce nom soit de Baal-Zébub, littéralement le seigneur des mouches, qui était une divinité adorée par les habitants d'Écron. Et vous retrouvez cette divinité dans le deuxième livre des rois. C'était donc une divinité des Philistins. Soit donc de Baal-Zébub, soit de Baal-Zéboul. Baal-Zéboul qui est le seigneur de la demeure, le seigneur de la maison, qui était lui aussi une divinité cananéenne. Alors il n'est pas nécessaire de trancher pour comprendre ici le sens du texte. Quelle que soit la divinité qui est derrière ce nom de Baal-Zéboul, ce nom est donné parce qu'il représente le prince des démons. Il est donné au prince des démons. Belzéboul est le prince des démons. Cela nous amène aux charges qui sont portées contre Jésus. De quoi est-il accusé? Nous l'avons déjà évoqué. Deux choses. Premièrement, d'être possédé. Il a Belzéboul, verset 22. Il a un esprit impur, verset 30. Deuxièmement, de chasser les démons en alliance avec le prince des démons. En d'autres mots, son pouvoir est celui du diable, pour dire les choses clairement. Alors, quelle est la réponse de Jésus à ces deux accusations ? La réponse de Jésus englobe le reste du récit, et en particulier les versets 23 à 27. Et Jésus va répondre à cette double accusation par une double parabole, petite parabole, une double image. Je relis ces versets. Il les appela et se mit à leur dire en parabole : comment Satan peut-il chasser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut tenir. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut tenir. Si donc le Satan se dresse contre lui-même, il est divisé et il ne peut tenir, c'en est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord lié cet homme fort, alors seulement il pillera sa maison. Jésus utilise ici deux images. Il utilise l'image de la maison pour parler du royaume de Satan. Et puis il utilise l'image de l'homme fort pour décrire Satan lui-même. Alors que faut-il comprendre par cette réponse de Jésus ? Par sa réponse, Jésus va montrer l'absurde de leurs accusations. Il l'accuse de chasser les démons par le pouvoir du diable. Cela revient à dire que Satan se détruirait lui-même, détruirait son propre royaume, détruirait sa propre maison. Mais dit Jésus à trois reprises, versets 24, 25, 26, « Ce qui est divisé, le royaume, la maison, Satan, ne peut tenir. Ce qui est divisé ne peut tenir. » Leur accusation est absurde. Absurde aussi, car si effectivement le royaume de Satan était divisé, alors il serait affaibli. Or, ce n'est pas le cas. Satan reste l'homme fort qu'il faut d'abord lier avant de pouvoir prendre ses biens. Certainement qu'il faut faire ici le rapprochement entre ce liage. Ce n'est pas un mot qu'on utilise très souvent, hein, ce liage, mais il existe, de l'homme fort et l'activité d'exorcisme menée par Jésus tout au long de son ministère. C'est, me semble-t-il, la lecture, la compréhension la plus naturelle. Avec beaucoup d'autres commentateurs, je vois dans les nombreuses possessions que l'on voit dans les évangiles la description d'une armée de puissances spirituelles qui s'oppose à Jésus et à l'inauguration du royaume de Dieu. Inauguration parce que ce royaume vient en plusieurs étapes. Il vient premièrement par la venue de Jésus, qu'il inaugure. Il vient ensuite à la Pentecôte par l'Esprit Saint et la formation du peuple de Dieu, du peuple du royaume. Et puis il vient enfin pleinement ou dans sa plénitude lors du retour du Seigneur. En Jésus, donc, nous avons la phase initiale, l'inauguration de la venue du royaume. Et cette inauguration ne se fait pas sans opposition. Les forces des ténèbres se déchaînent. Elles essayent de faire barrage. Elles essayent d'empêcher Jésus d'accomplir sa mission. Et je crois personnellement que nous avons là l'explication principale. Ça ne répond pas à toutes les questions, mais l'explication principale au déferlement de possession auquel Jésus doit faire face pendant son ministère terrestre. Déferlement unique parce que l'enjeu est de taille, parce que l'enjeu est unique. En instaurant le royaume de Dieu, Jésus s'est engagé dans un combat qui va le mener jusqu'à la croix et dans un combat qu'il va remporter à la croix, et dont les exorcismes, d'une certaine manière, sont les prémices de cette victoire de la croix. Nous avons ce beau passage de la lettre aux Colossiens, où Paul dit qu'à la croix, Jésus a effacé l'acte rédigé contre nous en vertu des prescriptions légales, acte qui nous était contraire. Il l'a enlevé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principats et les autorités. Et il les a publiquement livrés en spectacle, en les entraînant dans son triomphe. À la croix, Jésus a dépouillé toutes les puissances mauvaises. Il les a vaincues. Il les a dépouillées. Il a enlevé leur puissance. Tant et si bien qu'en l'absence d'actes d'accusation, ces puissances mauvaises n'ont plus aucune prise sur le croyant, pour peu qu'il ait bien en Jésus-Christ. La venue du royaume impliquait une bataille spirituelle et une conquête du monde spirituel. Les exorcismes de Jésus en sont la première étape, donc, les prémices de sa victoire à la croix. En chassant les démons, puis finalement, à la croix, Jésus est entré dans la maison de l'homme fort, pour reprendre l'image de notre texte, et il l'a lié. Jésus est entré dans la maison de l'homme fort, et il l'a lié. Dans la réponse de Jésus, la délivrance est synonyme de pillage de la maison de l'homme fort. Et certains font ici le rapprochement avec ce passage connu du prophète Ésaïe, au chapitre 53, les versets 10 à 12, où le serviteur de l'Éternel, après avoir livré sa vie en sacrifice de réparation, partagera le butin avec la multitude. Ayant lié l'homme fort, Jésus peut piller sa maison et prendre le butin. En d'autres termes, il peut libérer tous ceux qui étaient dans la maison, c'est-à-dire ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, dans les ténèbres. Nous tous, avant que nous nous donnions à Jésus-Christ. Alors non, Jésus n'est pas possédé du démon, et encore moins à son service. Il est engagé dans un combat avec lui qu'il est en train de gagner et qu'il va complètement gagner à la croix. Après avoir montré l'absurde de leurs accusations, Jésus, dans les derniers versets, les versets 28 à 30, va les mettre devant les conséquences de leur choix. Il introduit ce qu'il va dire par cette expression « Amen » qu'on peut traduire en « vérité » et qui marque le côté solennel de ce qu'il va dire. Et que dit-il ? Je paraphrase, il dit en essence que tous les péchés, tous, seront pardonnés aux hommes, bien évidemment s'il y a repentance, c'est sous-entendu, tous les péchés seront pardonnés aux hommes, sauf le péché contre le Saint-Esprit, pour lequel il n'y a pas de pardon, et Jésus ajoute, c'est un péché éternel. Nous arrivons à la deuxième partie de notre message, le péché contre le Saint-Esprit. Et j'aimerais essayer de répondre ici à plusieurs questions. Qu'est-ce que ce péché ou ce blasphème contre le Saint-Esprit ? Qu'est-ce qu'il n'est pas ? Pourquoi est-il impardonnable ? Qui est concerné ? Sommes-nous concernés aujourd'hui ? Qu'est-ce que le péché contre le Saint-Esprit ? C'est premièrement, et certains pensent uniquement, le péché historique des autorités juives qui sont concernées dans notre récit, donc des autorités juives du temps de Jésus qui ont attribué au diable l'accomplissement du salut, l'accomplissement de la rédemption divine qui était bel et bien l'œuvre de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint qui était descendu sur Jésus. Alors même que ces autorités juives avaient toutes les cartes en main pour comprendre les choses autrement. Eux, plus que quiconque, eux qui connaissaient les Écritures, auraient dû comprendre et accepter que Jésus... que Jésus était le Messie. Je crois personnellement qu'ils l'ont vu, qu'ils l'ont compris, mais qu'ils ont refusé de l'accepter. Notons quand même ici que Jésus ne ferme pas complètement la porte, ou il ne ferme pas la porte d'emblée. Il n'exclut pas les scribes et les pharisiens par ses paroles. Ceux qui s'opposent à lui peuvent encore se détourner de leur mauvaise voie. Ils ne sont pas exclus d'avance du royaume de Dieu. Ils le seront s'ils persévèrent dans cette voie. D'ailleurs, le reste du Nouveau Testament, unanimement, nous assure de la promesse du pardon si nous nous repentons, si l'endurcissement cesse. Cette parole dure de Jésus est donc, en fin de compte, une parole de grâce, une parole qui vise à amener à la vie et non à la mort. Qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit ? Je crois que c'est encore autre chose. Je crois que c'est vrai, c'est historiquement le péché de ces autorités juives. Mais je crois que c'est aussi par extension l'endurcissement délibéré du non-croyant qui refuse de céder à l'Esprit Saint, qui œuvre de manière à convaincre son cœur. Je le redis, c'est par extension l'endurcissement délibéré du non-croyant qui refuse de céder à l'Esprit Saint, qui œuvre de manière à convaincre son cœur. Et ce péché, dit Jésus, n'a pas de pardon, il est éternel. Alors pourquoi ce péché est-il si grave ? Pourquoi n'y a-t-il pas de pardon pour ce péché ? Pourquoi ce péché contre le Saint-Esprit est-il plus grave que le péché contre le Fils de l'homme, dont il est fait mention dans les deux passages parallèles de Matthieu et de Luc qui abordent ce même récit ? Pourquoi est-ce un péché éternel ? Pour répondre à cette question, il faut d'une certaine manière démonter le mécanisme du salut. Et il faut comprendre le rôle de l'Esprit-Saint, le rôle que l'Esprit-Saint joue dans le salut et joue pour le pardon des péchés. Quel est ce rôle ? L'œuvre du Saint-Esprit dans le salut est principalement de révéler le Christ, d'illuminer l'intelligence, d'illuminer notre cœur. J'utilise différentes images, de faire tomber les écailles de nos yeux, de nous convaincre de péché. Voilà principalement l'action de l'Esprit-Saint dans le salut. Et c'est ainsi que tous les péchés sont pardonnés d'une seule manière. Il n'y a pas d'autre possibilité, c'est-à-dire quand le coupable, le pécheur, cède à l'œuvre de conviction de l'Esprit, se repent et met sa foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre voie, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. La repentance exige toujours l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi résister à l'œuvre de l'Esprit, fermer son cœur à son action, endurcir son cœur, refuser de voir, refuser de croire à l'évidence, quand j'ai vu et quand j'ai compris, c'est se placer dans une position où il n'y a pas de pardon possible. Il ne peut pas y avoir de pardon puisque je rejette consciemment celui qui seul peut m'amener au pardon, le Saint-Esprit. Deux citations de théologiens qui font référence. Tout d'abord, Wayne Grudem, qui a écrit un gros pavé, sa théologie systématique, et qui dit la chose suivante. Dans ce cas, ce n'est pas que le péché lui-même est si horrible qu'il ne saurait être couvert par l'œuvre rédemptrice du Christ. C'est tellement terrible que non, ça va, c'est en dehors de ce que Dieu peut faire. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais plutôt que l'endurcissement du pécheur exclut celui-ci des moyens ordinaires que Dieu utilise pour sauver les gens, la repentance et la foi en Christ. Le péché est impardonnable parce qu'il sépare le pécheur des moyens par lesquels on accède au salut, tout simplement. Et je vous ai mis une autre citation d'un autre auteur qui dit « Céder à l'attraction de l'esprit est la condition préalable au pardon ou du pardon, car c'est ainsi seulement que s'ouvre la voie du pardon. S'opposer à l'esprit, refuser de se laisser convaincre alors qu'il rend témoignage de la seule voie de salut possible, c'est se priver du seul accès possible. » Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que le péché contre le Saint-Esprit, ce que nous appelons péché contre le Saint-Esprit, n'est pas un péché au sens habituel du terme, comme on l'entend généralement. Ce n'est pas à proprement parler un acte ou une parole ou une pensée que l'on pourrait commettre, même si ce sont les pires choses que l'on peut faire, penser ou agir. Ce n'est pas de cela dont il s'agit. Le péché contre le Saint-Esprit, ce n'est pas dire des paroles calomnieuses, injurieuses contre Dieu, contre le Saint-Esprit. Ce n'est pas blasphémer, comme on pourrait aussi le dire. Ce n'est pas douter, ni nier la vérité qui est portée par l'Esprit-Saint. Ce n'est pas non plus attribuer au diable une œuvre accomplie par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas non plus les résistances que tout homme pécheur oppose tout d'abord à Dieu avant d'accepter sa grâce. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est délibérément refuser la grâce de Dieu. C'est délibérément refuser de croire. C'est délibérément refuser de se repentir sous l'action convaincante de l'Esprit-Saint, alors que je sais que je devrais le faire. Et c'est persévérer dans ce refus-là, c'est endurcir mon cœur dans cette voie-là. Et pour ce péché-là, il ne peut y avoir de pardon, puisque le pardon vient par l'action, par la repentance qui vient de l'action de l'Esprit-Saint que je rejette. Si nous avions le temps, nous pourrions, et ça serait intéressant ici de le faire, mais je vous invite à lire sur le sujet, je peux vous suggérer l'une ou l'autre lecture, nous pourrions faire le lien avec deux textes de l'Épître aux Hébreux qui sont eux aussi notoirement difficiles, et où il est aussi question d'une attitude coupable envers le Saint-Esprit, et dont le résultat est irrémédiable. Et nous verrions que nous pourrions mettre ces textes en parallèle, avec quelques nuances. Maintenant, qui est concerné? Est-ce que le chrétien est concerné? Est-ce que le chrétien peut commettre le péché contre le Saint-Esprit? À la lumière de tout ce que nous venons de dire, je crois personnellement, et je pense pouvoir l'affirmer avec force, que ce n'est pas le cas. Que seul le non-croyant, seul l'inconverti qui s'endurcit dans ce chemin-là est exposé à ce péril. En effet, ceux qui sont nés de nouveau se sont laissés persuader par le Saint-Esprit. Ils ont accepté de se repentir, de reconnaître leurs péchés, leurs besoins de Dieu. Ils ont donc pris une attitude complètement à l'opposé de celle qui consiste à rejeter cette voix de Dieu que j'entends et que je ne veux pas entendre. Si les chrétiens ne sont pas concernés par le péché contre le Saint-Esprit, ils doivent néanmoins, bien évidemment, toujours veiller à ne pas s'accommoder du péché dans leur vie, à ne pas laisser leur cœur s'endurcir face aux sollicitations de l'Esprit-Saint qui continue tout au long de notre vie à nous convaincre de péché. Alors qu'en est-il, et j'arrive à la fin, qu'en est-il de l'enfant de Dieu qui est troublé à la pensée d'avoir commis cette faute si grave. Le cas n'est pas si rare que ça. Et ça peut vraiment être un frein dans la vie spirituelle quand nous avons le sentiment d'avoir commis ce péché-là. Peut-être même que certains parmi nous souffrent de cette pensée. Je crois que nous pouvons dire que pour l'enfant de Dieu qui est ainsi troublé, sa souffrance même, et son désir de croire sont précisément la preuve qu'il n'a pas commis une telle faute. Et je cite une dernière fois Wayne Grudem, toujours dans sa théologie systématique, qui dit « Le fait que le péché impardonnable implique une dureté de cœur et une absence de repentance aussi extrême indique que ceux qui craignent de l'avoir commis tout en étant attristés par le péché et désireux de chercher Dieu n'entrent certainement pas dans la catégorie de ceux qui en sont coupables. » Berkhoff, c'est un autre théologien qui a écrit une théologie systématique, dit que nous pouvons être raisonnablement sûrs que ceux qui craignent l'avoir commis s'en inquiètent et désirent que l'on prie pour eux ne l'ont pas commis. Que conclure ? Comment conclure ? Simplement en rappelant que le pardon de Dieu nous est toujours offert. Le pardon de Dieu est toujours offert à l'incroyant comme au croyant. C'est vrai au début de la vie chrétienne quand nous nous convertissons. Et puis c'est vrai tout au long de notre marche avec le Seigneur. Ce pardon découle de notre repentance, qui elle-même découle de l'action de l'Esprit-Saint qui nous convainc de péché et qui seul nous convainc de péché. Il n'y a pas de repentance s'il n'y a pas l'action de l'Esprit-Saint qui convainc de péché. Alors que nous soyons déjà chrétiens ou pas, le chemin est toujours le même. C'est le chemin de l'acceptation de la grâce de Dieu. C'est le chemin de la repentance. C'est le chemin de la vie éternelle que Dieu nous offre par le Christ au travers de l'œuvre de l'Esprit-Saint qui travaille nos cœurs. C'est le chemin du pardon que Dieu nous accorde pour nos péchés. Et ce pardon, chers frères et sœurs, est toujours une certitude. Toujours une certitude, parce que Dieu l'a promis. Il pardonne à quiconque se repent. Et je termine simplement avec ces beaux versets que nous trouvons dans la première lettre de Jean, qui nous concerne tous, que nous soyons chrétiens ou pas, et qui nous appelle chacun à faire le point peut-être ce matin devant Dieu. Jean dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, si nous confessons nos péchés, il est juste et digne de confiance. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Mes enfants, je vous écris cela pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ qui est juste. Il est lui-même l'expiation pour nos péchés, non pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il n'y a qu'un seul péché pour lequel il n'y a pas de pardon, c'est celui pour lequel nous ne nous repentons pas. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence. Nous allons dans un instant partager ensemble le pain et le vin. Nous allons nous approcher de la table du Seigneur. Le pain et le vin qui nous ont été donnés comme moyen de mémoire, de souvenir, pour nous rappeler l'œuvre du Christ accomplie pour nous. Le pain brisé qui nous rappelle ce corps brisé, meurtri du Seigneur, donné pour nous, qui nous rappelle ses souffrances. Le vin qui nous rappelle le sang versé, le don de sa vie jusqu'à la mort, et qui nous rappelle aussi cette nouvelle alliance que nous avons par Jésus-Christ. Après le cantique que nous allons chanter, où il nous est rappelé ce que le Christ a fait et subi pour nous, j'invite celles et ceux qui ont mis leur confiance dans le Christ, dans son œuvre accomplie à la croix et confirmée par sa résurrection. J'invite chacun alors à partager le pain et le vin qui circulera dans les rangs. Je vous invite à vous